Les Nombres de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Bonjour tout le monde, c'est Juliana pour une nouvelle émission sur Canal B. Avec une très jolie musique qui a été choisie par mon invitée du jour, Anne-Marie Labbé. C'est une écrivaine, elle va nous livrer un petit peu sa recette pour le livre qu'elle a publié le 23 novembre de l'année dernière, « 9 vies plus une », un roman paru dans les éditions Les Perséides. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Juliana.
C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui au Nombril de Vénus. Alors, dis-moi, c'est quoi ça? C'est beau.
Le concerto d'Aaron Ruess. Qui fait partie de ma routine d'écriture, puisque quand j'écris, à chacun des chapitres, je me suis immergée dans l'époque
du personnage.
Voilà. Et à un moment donné, le personnage prend vie, il est temps d'écrire, son destin se précise, et je m'installe devant un papier et avec un crayon, parce que je n'écris pas sur l'ordinateur le premier jet, et je mets en fond sonore de la guitare classique, et j'aime particulièrement ce morceau-là.
Tu es écrivaine, tu es rennaise.
Voilà, depuis bientôt 9 ans, j'étais en région parisienne avant, j'ai écrit des livres de cuisine auparavant, mais ce roman je l'ai écrit il y a une dizaine d'années. Je l'ai après un peu mis de côté, retravaillé plus récemment. Je suis aussi artisan, j'ai fabriqué des bijoux, des chapeaux cérémonie pour femmes et plus récemment des lampes.
Et on va comprendre dans ce livre, sur les différents portraits qui sont dressés, un premier qui démarre, alors c'est ça qui est super chouette, sur ces 9 vies plus une, démarre à plus de 11 000 ans avant Jésus-Christ.
C'est ça, 11 500 ans avant Jésus-Christ, sur l'actuel territoire d'Israël. C'est là où on a trouvé la première sépulture conjointe d'un hominidé, d'un animal, en l'occurrence une vieille femme et un chiot. Et c'est pas de leur histoire qu'il s'agit, mais j'ai quand même intégré leur destin dans le premier chapitre de ce livre.
9 personnages féminins,
oui,
qui au travers le temps vont avoir une transmission toute particulière entre elles. Et ça démarre aussi loin, on va dire 11 500 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi ? C'est ta passion de l'archéologie, c'est quoi ?
De l'archéologie, de l'histoire de l'art. Les périodes les plus anciennes ont toujours été celles qui m'ont le plus intéressée. Donc je ne pouvais pas faire l'impasse ni sur la préhistoire, ni sur la Mésopotamie. Et effectivement, y a un fil conducteur.
Oui, entre les personnages.
Entre les personnages. Et il y a une logique par rapport aux migrations humaines qui ont eu lieu, c'est enfin historiquement plausible ou vérifié, ça dépend des vies.
C'est un véritable périple, donc il y a à la fois cette recherche entre comment les personnes vivaient telle ou telle période.
Oui, je me suis attachée à décrire la vie quotidienne de chaque époque, parce que quand j'étudiais l'archéologie, c'est ce qui m'intéressait le plus. Comment cuisinait-on ? Et d'ailleurs, chacune de ces femmes cuisine à la façon dont ça devait se pratiquer.
À l'époque,
avec les instruments, les ingrédients. Chacune aussi a un rapport étroit avec un félidé au cours de sa vie. Avec la nature aussi. Même si leurs histoires et leurs vies sont très différentes, parce qu'à chaque fois, elles sont face à la grande histoire.
Oui, c'est ça, c'est que durant qu'elles sont en train, elles, de vivre quelque chose, dans leur période, il y a des choses qui se passent. Ces lieux dans lesquels elles sont, on parlait tout à l'heure de Moyen-Orient, mais tout ce qu'elles vont traverser, tous les lieux, eh ben, il y avait aussi un nom à l'époque et aujourd'hui ça s'appelle différemment.
C'est ça, certaines ont vécu sur des périodes charnières de l'histoire, d'autres moins. C'est très varié, leurs destinées sont très variées. Certaines ont eu des vies heureuses, d'autres pas. Enfin...
Mais pourquoi au travers des femmes ?
Alors, sans doute parce que je suis une femme déjà.
Oui.
Ça m'était plus facile d'aborder la vie quotidienne surtout, en fait, par ce biais-là. Parce que même si les femmes étaient sans doute plus libre qu'on ne peut l'imaginer à certaines périodes, à certaines époques, dans certaines régions. Malgré tout, c'est souvent à elle qu'était dévolu le rôle de faire la cuisine.
Oui, entre autres, donc c'est une grande passion chez toi, puisqu'avant tu écrivais aussi des livres de recettes.
Voilà, oui, j'ai écrit 3 livres de cuisine il y a une douzaine d'années maintenant.
Oui, donc des livres de cuisine, des chats.
Des chats, ouais.
Ou des chats plus grands que ça d'ailleurs.
C'est ça, il y a des félins plus grands.
Des félins dans les histoires, des histoires des femmes. Et des femmes, somme toute, assez ordinaires finalement.
Ah tout à fait, oui. Aucune n'a de rôle majeur dans la vie sociale. Oui, c'est des femmes de la vie ordinaire.
De la vie ordinaire. Mais elles sont quand même très attachantes, chacune d'entre elles. Ces 9 femmes qu'on découvre, 9 vies plus une, elles ont une force, un regard sur la vie qui est quand même remarquable.
Elles affrontent ce que la vie leur apporte d'épreuves, ou pas d'ailleurs, avec force, oui. Elles sont indépendantes aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi.
Cette indépendance.
À titre personnel, voilà.
Ok. Et bien, justement, pour rendre hommage à la force de ces femmes. Écoutons l'extrait de ce morceau, de ce concerto que tu aimes tant et qui là va nous apporter un peu de force, un peu différent de cette manière un peu féline de démarrage de l'émission, si j'ose dire. Nous sommes en compagnie de Anne-Marie Labbé, donc romancière, qui a sorti ce livre qui était dans le tiroir donc depuis 10 ans.
Oui, il fallait que ça mûrisse, que j'ai longtemps porté. Ouais.
Entre-temps, les livres de cuisine. Qu'est-ce qui t'attire dans la cuisine, Anne-Marie ?
Oh, alors j'ai commencé en fait par un livre sur la cuisine des champignons, parce que je suis une cueilleuse de champignons.
Invétérée.
Voilà, donc ça m'a semblé bien. À l'origine, j'étais partie pour adapter des cuisines, des recettes mésopotamiennes de cuisine. Mais j'avais peur que le lectorat ne soit pas forcément au rendez-vous. Je voulais adapter. C'est Jean Bottero qui a transcrit de l'acadien les tablettes de Yale, qui sont le seul corpus de recettes que nous ayons, qui date de
cette
4000
époque.
Ans.
Okay.
Donc je trouvais ça assez intéressant à faire, mais bon,
c'est très
les choses ont dérivé vers quelque chose de plus facile à réaliser. Donc les champignons et après les brochettes et puis après ail, oignon, échalotes ou les aliacées qui me permettaient de faire aussi pas mal de diversions sur justement l'usage qu'on en avait En Mésopotamie aussi, à nouveau, puisque j'y reviens souvent. Je passe beaucoup de temps entre le Tigre et l'Euphrate, au moins en imagination.
Si on revient sur 9 vies plus 1, donc paru aux éditions Les Perséides, une maison d'édition rennaise d'ailleurs.
Tout à fait, oui, oui. Hein? Depuis une vingtaine d'années, oui, Thomas Van Rumbeck a créé cette maison d'édition.
On peut même parler de la couverture parce qu'il y a une lionne.
La lionne blessée, oui.
La lionne blessée.
C'est un détail du bas-relief du palais de Ninive, du roi Assurbanipal. C'est une scène de chasse à la façon dont il procédait, c'est-à-dire qu'il mettait les fauves en captivité pour qu'ils s'habituent à l'homme, et après il les libérait et il se laissait massacrer assez facilement. Mmh. D'ailleurs, j'évoque plusieurs fois des cas de maltraitance animale au fil des
chapitres,
des millénaires, parce que c'est un sujet qui m'est cher aussi.
Exactement. Donc on va retrouver non seulement les portraits de ces femmes à un instant T, on va retrouver également comment elles vivent dans le quotidien et notamment comment ça se passe aussi par la nourriture.
Oui.
On va retrouver comment elles aiment, parce qu'il y a des histoires d'amour, il y a toujours une rencontre, et on voit quand même que les femmes, dès le départ et durant tout le livre, elles rencontrent un homme qui leur permet de continuer en fait l'histoire, puisqu'il y a d'autres femmes qui naissent.
Cette histoire de transmission, voilà.
Oui. Ouais.
Mais peu d'entre elles ont des vies communes longues en fait, à part celle qui est... dans le pays de Galles, en 451 après Jésus-Christ, qui a resté heureuse et longue.
Absolument.
Toutes ont eu par choix ou pas d'ailleurs, des histoires d'amour, effectivement, mais pas forcément très longues.
Celle qui a resté dans les pays de Galles, on va bientôt arriver dans la petite Bretagne, finalement, derrière.
C'est ça, hein, exactement.
C'est bien.
Oui,
parce qu'on arrive en France.
C'était quand même le but
du livre.
Du voyage.
Voilà, c'est ça. On part du Moyen-Orient, on passe par la Grèce.
Par Mésopotamie, ensuite l'Égypte, dans le delta du Nil. Ensuite la Grèce, Tanagra, où on fabriquait de très jolies petites statues. Après Rome. Et les Jeux du Cirque aussi, qui sont un autre cas de maltraitance animale dont je parle.
Oui. Alors maltraitance animale, mais aussi maltraitance humaine.
Aussi.
Hein?
Oui, oui, oui.
Ouais.
Tout à fait. Et voilà. Et après, donc le Pays de Galles, effectivement, Quimper. Et puis, un petit détour par l'Orne normande pour une vie pas très facile au moment des chasses aux sorcières.
Exact. Pour arriver, finalement, au bout du bout, en région parisienne.
En région parisienne, voilà. Mmh. Et avant la dernière vie, donc la dixième,
oui.
Plus une, qui est dystopique et...
Oui.
Assez
sombre, effectivement, et toujours avec un félin dans les pattes.
Oui, toujours avec un félin.
Toujours avec un félin présent.
Ouais.
Et il y a aussi un objet qui voyage durant tout le livre. C'est aussi un hommage peut-être à ces objets qu'on voit dans des musées, dans des lieux qui sont très très anciens. Quelle valeur peuvent-ils avoir? Alors quand on les voit derrière des estelles, dans des étagères, on ne comprend pas trop comment ils auraient pu servir, pourquoi ils ont de la valeur. Et finalement, avec ce livre, on perçoit.
Oui, oui. Au départ, oui, ça commence par un caillou dont j'imagine que c'est de l'obsidienne. Enfin, c'est comme ça que je me suis imaginé la chose. Trouvé dans une rivière. Et au fil de l'histoire, effectivement, on le retrouve sous des formes différentes, porté différemment et travaillé ensuite.
Oui, travaillé ensuite, transformé un petit peu.
Voilà.
Ouais. Mais cet objet, il existe ?
Non.
Non, c'est vraiment là le travail de la romancière.
Exactement.
Oui.
Oui, oui, oui.
Donc toute cette histoire, finalement, est parfaitement fictive.
Tout à fait. Oh oui, oui, absolument.
Parce que c'est rigolo comment, à la fin du livre, on va avoir un attachement un peu plus terre à terre.
J'ai été très impliquée quand je l'ai écrit. C'est vrai que je me suis vraiment immergée totalement dans la vie de chacune et dans l'époque. D'abord pour le plaisir de s'immerger dans chacune de ces époques, parce qu'encore une fois, c'est passionnant.
Ce sont tes personnages.
Voilà,
ils vivent avec toi encore aujourd'hui.
Oui, il m'arrive d'en plaisanter, en tout cas avec les enfants.
Ah oui.
de me les attribuer, de dire oui, dans cette village. Et
oui.
Je me souviens. Enfin bon, c'est des boutades, mais.
Ah oui, là, ça doit faire des repas intéressants le dimanche.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, ils comprennent. Oui. Ils ont les codes. Alors, ça va.
Ces recettes qu'on va trouver dans les livres, parce que parfois il y a le détail, bon, il n'y a pas vraiment les recettes à proprement dit, mais par la façon comme elle cuisine, mais il y a vraiment des détails, des choses. On peut encore se procurer des produits. Et,
ah oui, tout à fait. Alors, par exemple, pour le chapitre à Rome, c'est inspiré d'Apicius. Qu'on peut trouver, oui, en librairie, les recettes d'Apicius. Même si je me suis autorisée une petite fantaisie, puisque je lui fais cuisiner des moules. Alors ça, selon une recette d'Apicius, et après je la fais rajouter des raves cuites et frites. En fait, je lui fais un peu inventer par avance les moules frites. Je trouvais ça drôle.
Ouais, et puis la friture, c'est vraiment quelque chose de la période.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, tous les modes de cuisson, les récipients utilisés quand je les évoque, mm-hmm. et les ingrédients, tout est bien documenté.
Et c'est, alors on va parler d'écriture quand même, parce que c'est savoureux de lire avec ton écriture, qui est si tenue. Tu es dans une économie de moyens. Franchement, avec des mots tellement savamment choisis pour que tu puisses bien nous embarquer, avec une certaine émotion, pas mal de pudeur quand même. Vraiment, il y a de la distance. On est à la fois dans une émotion qui nous est propre, très singulière, parce qu'on peut se mettre, on peut se projeter sur le moment. Dans le détail, quand même, on arrive à voyager avec vous, avec vous toutes, tous ces personnages qui sont les tiens, et puis par la force des choses derrière ta plume, quoi. Et donc, est-ce que depuis 10 ans, ce roman a beaucoup changé avant d'être publié ?
Non, pas du tout sur la forme. J'ai toujours écrit comme ça, et même le prochain roman que je suis en train de terminer,
oui.
J'ai toujours écrit, oui, sur des. Enfin, j'ai jamais été capable de développer au-delà. Enfin, j'aime bien effectivement être assez pudique et aller pas à l'économie de mots, mais en tout cas. Ne dire que ce qu'est-ce qui qu'il est
faut.
Nécessaire,
voilà. Ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. En économie de mots, je vais dire, parce que oui, voilà, c'est pas, tu ne prends pas toute la place de rendre jambes.
Une fois que j'ai dit ce que je souhaitais dire du mieux possible pour bien le faire passer, oui, ça me convient comme ça.
Tu es satisfaite. Maintenant, on va écouter un petit morceau avant de continuer avec toi sur une troisième partie de cette émission. Troisième et dernière, hein, parce que le temps passe vite, en fait, dans le Nouvelle de Venise. Mais tu me diras après qu'on a écouté le morceau, en fait, pourquoi tu l'as choisi. Il paraît, Anne-Marie, que ce morceau-là, en fait, de 1927, tu l'as écouté à Canal B.
Exactement, je l'ai découvert sur l'antenne de Canal B, que j'écoute toujours dans ma voiture. Je suis fidèle auditrice. Et je l'ai trouvé magnifique. Je connaissais Miss Irlou, bien sûr, la version de Dick Dale que tout le monde connaît, qui fait partie de la BO de Pulp Fiction.
Oui, mais il y a Chaplin aussi.
Oui.
Hein, chanté dans un de ses films, je ne savais pas lequel c'était.
Mais... Oui. Et celle-là m'a beaucoup plu. En fait, je trouve qu'elle pourrait être la bande-son des premiers chapitres du livre. D'autant que l'histoire de cette chanson, ça raconte l'histoire d'un Grec qui est amoureux d'une belle Égyptienne. Et ça rejoint l'histoire du troisième chapitre, du chapitre à Bubastis, parce que c'est un Grec qui va emmener la prêtresse égyptienne après en Grèce. Voilà, je trouve ça très beau et c'est une belle découverte.
C'est un roman magnifique que je vous conseille de lire. Franchement, j'adore. Et d'ailleurs, même la mise en page, elle est quand même bien choisie.
Oui,
en fait.
c'est Thomas Van Den Beek qui l'a choisi. C'est très.
Comment on appelle ce sorte de mise en page? Tu ne sais pas. En fait, elle est pas.
Ça a un nom effectivement.
Ouais, ça doit avoir un nom. En fait,
oui,
ça décousse une colonne.
C'est aligné des deux côtés.
Voilà, c'est justifié en colonne.
Voilà, c'est ça. C'est très élégant.
Très élégant, très beau, qui accompagne très bien. C'est 9, 10 plus une histoire dans le roman. Nous sommes en train de parler de ces femmes qui ont traversé de Moyen-Orient jusqu'ici en Bretagne à un moment donné. Oui, parce que voilà, ouais, on est là aujourd'hui, non?
Exactement, oui, et avec plaisir.
Les gens qui nous précèdent, oui, ça aurait pu être la vie de tout à chacun finalement dans ce voyage. Ça peut se transposer dans d'autres cultures, dans
Exactement.
D'autres pays,
ah, oui,
avec d'autres périples.
Oui, ben, certaines ont travaillé la terre, certaines étaient brodeuses. Enfin, tout avait une activité d'ailleurs, toutes travaillaient. Hein, y a pas de...
La chose intéressante, c'est qu'elles ont toutes, à un moment donné, un enfant. Et
oui,
une fille.
Et une fille, voilà.
Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est le fil conducteur, ce sont ces filles. Et on attend toujours pour savoir un petit peu comment les choses vont continuer de se transmettre entre un chapitre et un autre, c'est-à-dire entre une histoire d'une des femmes et les autres qui vont arriver petit à petit. Donc ça démarre quand même très très loin, très très loin. 11 500 ans avant Jésus-Christ. Et franchement, j'étais... Alors, parce qu'on ne pense pas toujours, et quand on n'en connaît pas l'archéologie, quand on n'a pas baigné dans l'histoire, eh bien, on a du mal à s'imaginer qu'ils étaient d'une telle finesse et d'une telle liberté. Tu parlais de la liberté de la femme. On va trouver pas mal de moments de liberté chez ces femmes.
Oui. De toute façon, de plus en plus, les recherches archéologiques et historiques le mettent en valeur.
Même le Lady Sapiens.
Oui, exactement. Hein? Voilà.
Oui.
Oui.
Donc,
oui, elles prenaient leur destin en main, en fait.
Elles prenaient leur destin en main, elles n'étaient pas si dépendantes que ça de leur
non.
bonhomme, en fait.
Elles subissaient plus l'histoire et certains aléas que,
ouais.
que subir de façon plus... Enfin, par exemple, un patriarcat dur, comme dans
oui.
certaines sociétés, non, c'était pas...
Oui, on a le sentiment aussi, dès le départ d'ailleurs, qu'avoir des enfants, c'est aussi les partager avec les autres femmes, avec une communauté, etc.
Aussi, oui, bah, ouais. surtout sur les premières vies.
Oui, ah, surtout oui. sur les premières vies. Aujourd'hui, on est dans un drôle de système, en fait. Quand on lit ton livre, on se dit, mais tu vois, c'est bizarre.
C'est vrai que leurs enfants ne leur appartenaient pas. C'était à chaque fois des adultes en devenir avec un avenir à vivre. C'était pas... C'était pas une maternité oppressante qu'elle... Enfin, en tout cas, je crois pas qu'aucune d'elles ne l'a... Sans doute pas su le décrire, de toute façon, une maternité.
Oui, peut-être.
C'est envahissante, alors.
On pourrait se dire, oui, mais elle faisait ceci et faisait cela, mais on a juste le rôle de femmes et des hommes qui peuvent même se confondre, à la limite, parce que tout le monde a quelque chose à faire.
C'est ça, voilà. Et chacun a une relative liberté, en fait. Les contraintes sont parfois liées à la pauvreté ou à des contingences historiques, plus qu'au rapport homme-femme, en fait.
Alors parlons-en un peu d'amour quand même, parce que j'ai adoré tous les passages dans lesquels tu décris l'amour. Ça peut avoir des côtés un peu romantiques par certaines périodes, on va dire, mais pas toujours en fait. Hein. Et puis tu vas jusqu'au moment où on peut bien capter que là, l'histoire, elle est très significative. Mais encore une fois, il y a cette pudeur qui laisse juste planer.
Oui.
C'est un livre très sensuel. Hein. Est-ce qu'on te l'a déjà dit?
Non. Mais merci.
Non, mais franchement, tu ne l'as pas senti comme étant dans l'écriture ou...
Bah, je suis tellement pudique que je ne suis pas sûre de m'autoriser à le ressentir forcément.
Ah, je l'ai trouvé extrêmement sensuel, ce livre. Il est très, très charnel, très agréable. Et puis, la présence des animaux aussi le rend vachement... je ne sais pas, moi, on a l'impression que les phéromones sont un peu dehors, quoi.
Oui, mais ça donne une épaisseur à... un affect sur un autre niveau encore.
À cette présence.
Présent.
Ouais, voilà. Et cette présence des animaux, je souhaiterais savoir, est-ce que c'est quelque chose de très important pour toi C'était parce que c'était vraiment lié à des époques, cette présence, mais parce qu'après, il y a des moments où il y a certains chapitres, les animaux, ils sont là, mais ils auraient pu ne pas l'être.
Oui, oui, ça, parfois, ils sont juste évoqués, parce qu'il y a eu des périodes, justement, où il n'était pas de bonne aloi de conserver des chats dans les maisons. Donc, bah oui, non, c'est important pour moi, les animaux, ça. Ils font partie de ma vie, puisque j'en ai pas mal à la maison.
Oui, c'est ça.
Je voulais les inclure dans cette histoire.
Ouais. Et on va bien le comprendre aussi, et bien sûr, à la fin du livre. Donc, encore une fois, Une vie plus une d'Anne-Marie Labbé, notre écrivaine de Rennes. Un roman magnifique qui est paru au mois de novembre 2023. Chez les Perséides, donc une maison d'édition rennaise, que je vous conseille vraiment vivement de lire, de découvrir. C'est absolument savoureux. Et quelle n'est pas ma joie, le scoop, Anne-Marie est en train d'écrire un roman en ce moment. Qui va sortir quand?
Ah, je ne sais pas encore. Je mets les...
Ah non, mais tu ne vas pas nous le mettre dans le tiroir pendant 10 ans.
Non,
encore,
non, non,
si?
Certainement pas. Non, non, non.
Ah.
Non, non, j'espère dans quelques mois.
Ah, c'est bien ça. Tu viendras parler à Canal B?
Volontiers.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Je tiens quand même à préciser qu'avec Lulu Van Trump, on continue quand même d'être dans la sélection musicale d'Anne-Marie Labbé. Merci beaucoup, c'était vraiment chouette de partager avec toi ton livre, ton choix musical et puis tout le reste, quoi. La passion pour les animaux, la passion pour la nourriture. Je crois qu'on a bien fait de se rencontrer.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Allez, bisous, bye.
Bisous. Some journey of